Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Les images se bousculent au fil des pages de l'Écriture sainte pour parler de l'Esprit-Saint. Luc l'évoque comme une colombe au jour du baptême de Jésus, mais dans le récit des Actes que nous avons entendu, il en parle comme d'un vent puissant et comme une sorte de feu qui se partageait en langue sur chacun des apôtres. Paul en parle aux Corinthiens comme ce qui désaltère et nous rend capables de dire « Jésus est le Seigneur » et de former ainsi un seul corps. Et nous avons entendu Saint Jean nous dire que Jésus ressuscité a soufflé sur ses apôtres pour leur donner l'Esprit Saint. Mais nous savons que cet évangéliste utilise ailleurs une image moins poétique, puisqu'elle est tirée de la procédure judiciaire, en désignant l'Esprit de vérité comme le paraclet, le consolateur et inspirateur des disciples de Jésus. Alors, colombe, eau, vent, souffle, feu ou langue de feu, avocat conseil, les mots se bousculent et nous manquent pour dire l'expérience de ce cadeau, ce don, ce charisme que Dieu nous fait lorsqu'il nous donne son esprit. Pour nous en tenir aux actes des apôtres, les images évoquées nous font entrevoir qui est cet esprit dont Jésus avait promis la venue à ses apôtres. Le souffle d'un vent, la lumineuse chaleur d'un feu communicatif et l'inspirateur de la parole que les apôtres vont oser proférer. Ce fut tout d'abord comme un violent coup de vent. Ce n'est pas la première fois que la foi d'Israël a expérimenté ce vent de Dieu, ce souffle divin. Dès l'origine du monde, le souffle créateur de Dieu planait sur les eaux. C'est ce souffle divin qui redonne vie aux ossements desséchés. Rappelez-vous ces magnifiques paroles d'Ézéchiel, « Viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. » Alors l'esprit vint en eux, ils reprirent vie et se mirent debout. Car l'esprit est bien ce vent mystérieux dont l'homme ne peut connaître ni d'où il vient ni où il va, comme le disait Jésus à Nicodème, parce qu'il vient de Dieu et nous pousse vers lui, et que Dieu ne peut être connu par la seule chair, à moins qu'elle naisse à nouveau, qu'elle naisse de l'esprit, justement. C'est un vent qui nous emmène sur des chemins où nous ne pensions pas aller. Un vent qui peut disperser les disciples de Jésus jusqu'aux confins du monde, alors qu'ils pourraient penser qu'il est mieux de rester ensemble et plus prudent de rester confinés entre soi. C'est un vent qui balaie nos certitudes et nos sécurités si humaines, mais aussi un courant d'air qui balaie nos peurs et ouvre nos portes closes, celles de notre cœur comme celles de nos communautés. Et comme le vent, il ne se voit pas, mais on entend sa voix. C'est donc par son action sur des réalités visibles que nous devinons sa présence. La musique qu'il produit, le mouvement qu'il impulse. Et comme le vent, cet unique esprit peut produire des sons et des mouvements variés à l'infini, selon l'objet ou le sujet qu'il traverse. Comme la musique est produite par des instruments les plus variés, des grandes orgues aux plus rudimentaires pipeaux, lorsqu'ils sont traversés par l'air qu'on y insuffle. Les fonctions, les ministères, les activités sont variées, mais c'est le même et unique esprit qui fait l'unité du corps, nous disait saint Paul. Et dans la vie de l'Église, depuis 2000 ans, il n'a cessé d'inspirer des manières nouvelles et variées de suivre le Christ. Quand on pense à la diversité des ministères, à l'imagination débordante des charismes des ordres religieux et des mouvements ecclésiaux, à la multiplicité des chemins de sainteté dans le monde. Mais il ne suffit pas que ça bouge ou fasse du bruit pour que ce soit inspiré. Et même si saint Luc a évoqué le bruit d'un violent coup de vent, l'action de l'esprit ne s'identifie pas à l'extraordinaire, au fait d'être dans le vent ou de s'agiter comme un roseau. Car ce vent attise en nous le feu de la charité, comme nous le dit le Veni Creator qui rapproche ces deux mots, ignis et caritas, comme saint Paul parlait de la charité de l'esprit. Et l'évangile selon saint Jean nous a dit que Jésus ressuscité souffle sur ses disciples. Et nous proclamons notre foi dans le credo, en notre foi en l'esprit vivifiant qui donne la vie. Car ce vent est aussi le souffle de Dieu, le souffle du Christ, une haleine qui nous communique la vie de Dieu, qui nous fait aspirer vers Dieu, qui nous fait respirer Dieu. Pour ceux d'entre nous qui avons été baptisés avant les réformes liturgiques et les gestes barrières, le prêtre a soufflé sur nous pour chasser les esprits mauvais et surtout pour signifier le pouvoir sanctificateur de l'Esprit de Dieu, comme Jésus a soufflé sur ses disciples pour leur donner son esprit et les envoyer en mission. Nous sommes comme ces corps inanimés qui ont besoin de l'aspiration divine pour revenir à la vie. Dieu insuffla dans les narines de l'homme un souffle et l'homme devint un vivant. Cet esprit, ce souffle, il est l'inspirateur d'une parole. Nous l'avons entendu, les disciples se mirent à parler à des gens de langues différentes. Si Luc souligne cette diversité des langues, avec cette longue liste qui est digne d'un professeur d'histoire-géographie, c'est parce qu'il sait bien que nos paroles humaines sont une arme fort puissante qui peuvent détruire et blesser par le mensonge et les injures et diviser les hommes. Depuis Babel, les barrières linguistiques sont le symbole le plus parlant des incompréhensions et des conflits qu'elles peuvent susciter. Mais ce qui est extraordinaire avec cette parole qu'inspire l'Esprit à cette Église naissante, c'est qu'elle ne détruit ni ne divise, mais qu'au contraire, elle fait naître la communion entre ceux qui l'entendent, sans méconnaître leurs différences. Et il ne peut en être autrement. Si l'Esprit qui les inspire est l'Esprit de Dieu, C'est l'Esprit qui est la communion d'amour du Père et du Fils, sans confusion, alors il produit en nous les mêmes effets. Il nous fait entrer non pas seulement en relation, mais en communion, les uns avec les autres. Nous qui avons reçu le baptême, nous qui demandons en chaque fête de Pentecôte et bien d'autres fois d'être renouvelés dans l'Esprit, laissons-nous cet Esprit nous souffler la parole qui convient, qui unit, qui pardonne, qui loue et qui aime, tant dans notre prière que dans notre relation fraternelle ou notre témoignage. Sommes-nous attentifs à cet inspirateur de notre vie? Et que nous souffle donc cet Esprit? Que nous inspire-t-il? Que fait-il monter au fond de notre cœur? Il nous souffle la prière vraie, puisqu'il nous fait entrer dans une relation filiale envers Dieu, ce Dieu qui a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Alors si l'Esprit a ce rôle si essentiel que ces diverses images ne font qu'évoquer, s'il nous introduit dans l'intimité de Dieu, s'il est cette puissance intérieure qui mène au cœur, au diapason du cœur du Christ et nous pousse à aimer nos frères comme le Christ les a aimés et à leur annoncer la bonne nouvelle du salut, nous ne pouvons que souhaiter l'accueillir en nous, nous laisser inspirer par lui, le laisser nous parler, nous révélant qui nous sommes pour Dieu, le laisser féconder nos efforts pour que nous produisions le fruit que le Seigneur attend de nous. C'est pourquoi nous avons raison de demander que l'Esprit Créateur vienne nous visiter et nous renouveler pour que la résurrection du Christ transforme notre vie, pour que sa Pâque s'accomplisse en nous. Amen.